m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Ce sont des raconteurs d'histoires que nous recevons aujourd'hui pour cette deuxième émission enregistrée en public au Centre culturel franco-guinéen de Conakry en Guinée. Trois d'entre eux sont guinéens. Oscar, auteur de bande dessinée, caricaturiste et patron de presse. Mamadi Koulibaly, qui publie des romans policiers. Et Juliana Diallo, une jeune hongroise installée ici à Conakry. Elle est enseignante, elle est devenue ambassadrice de la Guinée grâce à la magie de ses mots. Le quatrième invité est malien, vous le connaissez peut-être. Il s'agit d'Ousmane Diarra, un immense conteur dont les livres pour adultes ou pour enfants ont conquis un large public, mais aussi un combattant de toujours contre l'obscurantisme et pour la liberté. Tous participent, comme vous le savez, aux 72 heures du livre qui se déroulent ici, dans la capitale guinéenne, jusqu'à vendredi, où vous nous écoutez sur 89 FM, VMDN à Conakry. C'est à 16h10 et 23h10 et vous m'en direz des nouvelles.
VMDN est en Guinée-Conakry.
Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci à tous d'être avec nous. Merci aussi au public réuni ici au Centre culturel franco-guinéen. Merci de votre accueil. C'est un Guinée toujours aussi chaleureux. Juliana Diallo, j'ai lu une interview de vous il y a quelques années. Elle date un petit peu. Elle date de 2013. C'était sur le site Guinée Direct. Et vous disiez ceci. Nous avons une vie littéraire endormie en Guinée. Est-ce que c'est toujours vrai?
En partie, je pense. Beaucoup de choses ont été faites. La Guinée est en train de promouvoir cette vie culturelle, mais il y a un grand chantier parce qu'il y a une jeunesse qui n'a pas tout à fait accès aux livres et qui n'a pas tout à fait les compétences pour lire des grands romans et puis pour que cette jeunesse se mette aussi à écrire. Je pense qu'il faut beaucoup investir dans l'éducation. Il faut que nos jeunes, à la sortie des écoles, soient capables de bien décoder, comprendre ce monde. Parce que le livre n'est qu'un moyen pour mieux comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Donc, nous avons besoin de très bonnes écoles, de très bons enseignants, beaucoup de livres et des meilleures conditions pour qu'il y ait lecture, il y a écriture, il y a échange, il y a débat sur la Guinée, sur la vie.
Voilà, et c'est ce dont on parle ici à Conakry au cours de ces 72 heures du livre. Il faut aussi bien sûr des écrivains. Et vous, Mamadi Koulibaly, vous avez un parcours assez atypique. Vous avez déjà publié plusieurs livres, en particulier des romans policiers, on va y venir. Mais je parle de parcours atypique parce qu'à la base, vous n'êtes pas du tout un littéraire, en tout cas tel qu'on pourrait le croire quand on voit votre CV, votre curriculum vitae. Vous êtes analyste programmeur. Est-ce qu'il y a des similitudes entre mettre au point un logiciel informatique et écrire un roman?
Il y a des similitudes. Ce n'est certes pas le même modèle. Au niveau du logiciel, les langages sont codés, c'est connu, etc. Et au niveau du roman, en l'occurrence le genre policier, tout est fondé sur une narration fictionnelle. Et le roman policier a ceci de spécifique, qu'il s'appuie sur une sorte de recherche méthodologique qui vise à remonter, à dénouer une situation qui est considérée au départ comme codée. Et le décodage, il porte sur au moins un des six invariants que sont le crime ou le délit, le mobile, la victime, le coupable, la recherche et le mode opératoire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire.
Absolument. Plus. Mais vous parlez de code, justement, et c'est peut-être l'informaticien qui est aussi en vous qui parle. Mais rassurez-moi, vous écrivez pas avec un algorithme, quand même. On ne peut pas écrire des phrases, monter un suspense comme on monte un programme informatique avec des choses récurrentes qui reviennent, des choses prévisibles. Il y a aussi tout l'aspect intelligence, tout l'aspect sensibilité, tout l'aspect humain derrière votre écriture. Vous écrivez pas comme une machine.
En fait, dans le roman, j'ai beaucoup plus de liberté, alors qu'au niveau du code, je suis tenu à une sorte de rigueur. Certes, au niveau de l'algorithmique, il peut arriver que les algorithmes diffèrent d'un informaticien à un autre, mais au niveau de la codification, on est tenu au strict respect d'un langage qui est déjà là.
Mais comment l'informaticien qui est en vous, l'informaticien que vous êtes, en est-il arrivé au roman, et singulièrement au roman policier ?
Disons que le milieu dans lequel j'ai évolué a joué beaucoup de rôles. Mes premières lectures m'ont beaucoup influencé. Je prends par exemple le texte que je considère même comme le texte fondateur du roman policier, Le double attentat de la rue Morgue, écrit par Edgar Poe. Et puis il y a eu bien d'autres auteurs que j'ai lus, des auteurs français, américains, et plus tard des auteurs africains comme Moussa Konaté. Et puis il y a eu bien d'autres romans qui m'ont marqué, et j'ai voulu suivre l'exemple de mes devanciers, mais tout en étant original, hein, faire en sorte qu'on ne dise pas que j'écris comme eux, mais j'écris tout en gardant mon originalité.
Voilà. Trouver son propre style, c'est évidemment justement très important pour un écrivain. Vous, Ousmane Diarra, raconter des histoires, c'est un peu dans vos gènes.
On peut parler comme ça, hein, parce que j'ai aimé ces histoires quand j'étais enfant, et c'est devenu une passion de les raconter.
Est-ce que vous vous êtes glissé dans le sillon des griots ?
Pas tout à fait, parce que il y a deux types de contes. Les histoires que je raconte, c'est les contes populaires, profanes, on peut dire, que les grand-mères racontent aux enfants, et que des conteurs professionnels aussi, avec lesquels les conteurs professionnels animent les soirées de contes. Mais c'est différent des épopées des griots, ça fait deux choses différentes. Moi, je ne raconte jamais d'épopées.
Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est de passer de la tradition orale à l'écrit ?
Je peux dire, dans mon cheminement, que la passion des histoires, hein, je les aime d'abord, les écouter, ensuite les raconter, je peux dire que ça fait créer un lien avec l'écriture.
Alors, vous êtes romancier, vous avez publié 3 romans, Vieux Lézard, Pagne de Femme et La Route des Clameurs chez Gallimard, dans la collection Continent Noir. Vous avez aussi publié des livres pour enfants. C'est important pour vous, justement, de vous adresser à la fois à la jeunesse et à un public plus adulte ?
Effectivement, parce que l'enfance est restée à moi, hein, sans exagération aucune, même... Mais tous les samedis, je rencontre les enfants, je leur raconte des histoires, on rit ensemble, etc. Et on chante ensemble. À la maison, je chante avec mes enfants. Donc ce lien entre l'enfance et l'adulte, et c'est pour cela que dans mes romans, c'est la plupart de mes romans d'ailleurs, sinon le dernier, le narrateur est un enfant qui porte un regard neuf et étonné sur le monde.
Mais si le narrateur est un enfant, ça veut dire qu'il parle, ça veut dire qu'il écrit comme un enfant. Ça, c'est aussi une contrainte pour l'écrivain.
Ça peut être une contrainte, mais j'ai essayé un narrateur adulte, hein, avec le personnage adulte, peintre, sculpteur, mais je n'ai pas pu. Il fallait passer par la voix de l'enfant, le regard neuf de l'enfant, innocent de l'enfant, ensuite par ses mots, pour pouvoir raconter cette histoire-là.
Alors, le dernier livre jeunesse que vous avez publié, Ousmane Diarra, c'est un conte, Le Chasseur et le Lézard, publié en 2018 aux éditions Evalou, avec des illustrations de Sonia Sens. Vous êtes aussi conteur, et vous le disiez, vous avez fait le bonheur de centaines d'habitués de la bibliothèque de l'Institut français du Mali, et vous avez accepté, là, devant le public réuni au Centre culturel franco-guinéen de Conakry, de nous raconter le début de ce conte. On va dire seulement le début. On va laisser un petit peu le suspense pour que le lecteur puisse en découvrir la fin. On vous écoute.
Il était une fois, il y a très longtemps de cela, il était une fois un grand chasseur. Était-il réellement grand ? On se pose la question parce que quand il partait à la chasse, il massacrait les animaux comme si ce n'étaient pas des êtres vivants. Il tuait les éléphants par centaines. Même les mouches qui l'approchaient, il les massacrait rien que pour revenir au village, montrer les trophées de chasse. Les anciens lui ont dit, son nom c'est Mariko. Mariko, tu arrêtes de tuer les animaux comme ça, Parce que si les chasseurs qui t'ont précédé avaient fait comme toi, tu ne serais pas devenu un chasseur parce qu'il n'y aurait pas eu un seul animal à chasser.
Les 72 heures du livre de Conakry sur RFI.
Ousmane Diarra dans VMDN sur RFI, Le Chasseur et le Lézard, publié, je le rappelle, aux éditions Evalou avec des illustrations de Sonia Sens. Racontez-nous, Ousmane Diarra, quelles sont pour vous les bases de l'art du conte et de l'art du conte pour enfants singulièrement?
Je pense que c'est je ne sais pas, je ne vais pas mystifier quoi que ce soit, mais c'est rester enfant soi-même. Garder sa joie d'enfant, sa naïveté d'enfant, c'est sa capacité d'étonner, de s'étonner du monde, de s'émerveiller et aussi de s'indigner.
De s'indigner, parce qu'il y a évidemment la fin de l'histoire qu'on ne va pas raconter, mais enfin, on a déjà compris, là, entre les mots que vous venez de nous conter, Ousmane Diarra, qu'il y avait une dimension écologique dans cette histoire de respect de la nature et singulièrement du respect des animaux. Pour l'avenir de la Terre, il y a une morale dans les contes que vous écrivez. Est-ce que c'est un mot qui vous convient ou c'est un mot que vous jugez un petit peu trop fort? Parce que c'est un mot qui peut faire peur, quand même, le mot morale.
Ouais, aujourd'hui ça peut faire morale, mais tous les contes africains, c'est un conte traditionnel, hein. Mais il y avait une leçon de morale dans tous les contes africains.
Ce sont des récits initiatiques.
C'est des récits initiatiques, même ce que j'appelle conte populaire, c'était fait pour éduquer les enfants. Ne pas exagérer. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. La plupart des contes africains, enfin maliens que je connais, que j'ai écoutés quand j'étais jeune, ont une partie écologique, partie respect de la nature. Respect de la nature, il faut jamais... par exemple, les arbres, il faut jamais en abattre plus qu'on en a besoin. Si tu le fais, tu t'attires un malheur. Il y a aussi les gardiens de la forêt. Les animaux, il ne faut pas les tuer plus que des raisons. Plus que ce dont tu as besoin pour ta nourriture. Si tu le fais, tu t'attures des malheurs. Il ne faut pas monter sur la margelle d'un puits avec une chaussure. Les djinns vont te frapper, mais en réalité, c'est pour éviter que les microbes tombent dans l'eau de poisson, etc., etc. Donc nos contes étaient pleins de ça. Merci.
Et peut-être que si certains avaient écouté davantage les contes, la planète serait dans un meilleur état, en tout cas.
Je crois.
Un mot des illustrations de Sonia Sens qui jalonnent le récit dans le livre. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle? Vous lui avez donné des consignes? Elle est partie de vos mots? Elle est partie du texte, de l'histoire? Comment ça s'est passé pour bâtir cet album?
Je lui ai donné pas de consignes. Et lu les textes, elle l'a illustré et comme ça l'a inspiré. Et moi personnellement, c'est magnifique. J'ai trouvé le livre fini quand on me l'a envoyé. Je dansais, wow, c'est magnifique les illustrations.
Voilà, des dessins c'est colorés, voilà, plein d'humour, plein de clin d'œil.
Ça épouse le texte. Ça dit l'idée exacte ou les idées, ça exprime les idées, ça rend vivant les mots.
Beaucoup d'humour, effectivement. Un petit peu de férocité, parfois, mais de férocité gentille, hein, évidemment, dans les dessins de Sonia Sens. Un petit peu moins, peut-être, de férocité que dans les vôtres. Oscar, on vous connaît bien ici à Conakry. Vous êtes caricaturiste, je le disais. Vous êtes auteur de bandes dessinées, patron de presse. Vous avez fondé le journal satirique le plus ancien de Guinée, qui s'appelle Le Lynx, en 1992. Et plus tard, Bingo, un journal satirique aussi, un quinzomadaire, hein, c'est bien ça,
oui.
Qui donne une large place à la BD et à la caricature. Dans les deux cas, c'est l'actualité qui est la principale source d'inspiration?
Il y a non seulement l'actualité, mais il y a aussi les faits sociaux, l'histoire du pays. Parce que en Guinée, nous avons une culture de violence et d'oppression. Et quelquefois, ça stresse. Et nous, à travers ce que nous faisons, parce qu'en tant que caricaturiste, je rends gay les histoires noires. En tant qu'auteur de bande dessinée, je transmets de façon vraiment ludique l'histoire et puis les faits réels. Donc, c'est un peu comme ça. Les deux, je porte les deux manteaux à la fois, en tant que caricaturiste et en tant qu'auteur de bande dessinée.
Vous portez les deux manteaux, ça veut dire que vous avez, pour continuer dans la métaphore vestimentaire, deux casquettes différentes qui sont bien distinctes dans votre tête. Vous fonctionnez différemment pour faire un dessin, pour faire une caricature et pour construire une histoire en strip, en case, en bande dessinée.
Oui, effectivement. Parce que des deux côtés, je suis totalement différent. Quand je suis au bouclage de mon journal satirique, en tant que journaliste et auteur de spécialiste de dessin de presse, j'illustre les articles de mes confrères. Je simplifie avec plein d'humour les mots difficiles.
Ah, donc vous partez du texte, hein, c'est un petit peu comme le travail de Sonia Sens par rapport au conte d'Ousmane Diarra. Vous partez du texte, vous partez des mots et vous en tirez une illustration, une caricature, élément d'information supplémentaire.
Je tire l'essence même de l'article, je me mets à la place du lecteur parce que moi je comprends l'article, mais je lis pour celui qui ne sait pas lire l'article, pour qu'il sache exactement, sans passer par une interprétation, ce qui est écrit dans l'article. De quoi parle-t-on dans l'article?
Mais alors, c'est quoi une bonne caricature? C'est quoi un bon dessin, Oscar?
Il faut être un très bon dessinateur pour faire un mauvais caricaturiste.
Ah, d'accord.
Ouais, parce que la caricature, d'abord, il faut maîtriser l'éthique et la déontologie. Il y a des limites où on ne peut pas dépasser. Et il y a des aspects de l'éthique aussi qu'on doit se respecter. On fait pas d'autocensure. Mais il y a des limites, comme vient de nous dire notre grand frère. En Afrique, il y a certaines choses qu'on ne doit pas illustrer.
Par exemple?
Il y a des tabous. Il y a le sexe, par exemple, comme il dit, ou certains aspects de la religion, on ne doit pas y toucher. C'est une limite de la tradition. On est professionnel, mais on est quand même africain, traditionnaliste. Donc on respecte certaines valeurs africaines. Quand il y a aussi au centre culturel même, lors des attentats de Charlie Hebdo, on nous a posé cette question: est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qui s'est passé?
Et vous répondez non?
Oui, on a répondu, bien sûr. Ah bon? Parce que ça a été du tic au tac. Parce qu'il y a certaines choses que nous, on ne peut pas le faire, mais il y a d'autres aussi qu'on peut aller jusqu'au... On peut même aller dépasser les limites.
Vous m'en direz des nouvelles est à la 11e édition des 72 heures du livre à Conakry.
Alors, souvent, Oscar, les politiques viennent un peu démanger votre crayon. Ça m'intéresse de savoir comment vous procédez pour les caricaturer. La caricature, c'est l'art de l'observation. D'abord, j'imagine, c'est l'art aussi de l'accentuation, de l'exagération. Si on prend un homme politique complètement au hasard, si on prend le président Alpha Condé, par exemple, comment vous le dessinez, Alpha Condé?
Alpha Condé, avec son anatomie, on exagère.
Alors concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les parties de l'anatomie d'Alpha Condé que vous exagérez?
Lui, par exemple, comme il a une sorte de tic quand il parle. Avec ses mouvements, et il y a plein de boucles d'oreilles, pas boucles d'oreilles, mais des bagues sur la main. Et quelquefois, quand je dessine, j'exagère, je fais peser à chaque bague 50 à 50 kilos, donc qui fait traîner la main par terre. Ça, par exemple, ça peut dire que c'est lourd ce qu'il entend d'exprimer. Ou, lors de l'expérience, quand il est en colère, par exemple, les fossettes sont creusées, et puis il a une sorte de trompe au niveau de la lèvre supérieure, mais on ressort tout ça pour l'exagérer. Vous voyez quelque chose de bizarre, de ludique, d'humoristique, mais en fait, en réalité, vous reconnaissez la personne. Et à travers ce qu'il fait, par exemple, la personne est dans un milieu qui interprète automatiquement le contenu de l'article pour mettre le lecteur en bain de la situation. Donc, en fait, il faut maîtriser non seulement l'anatomie humaine, maîtriser la sociologie de l'action et le factuel. Parce que ça permet de combiner tout ça pour donner une bonne sauce au lecteur.
Alors, je vous ai demandé de m'envoyer quelques-uns de vos dessins. Vous m'en avez donné plusieurs. Il y a deux thématiques quand même qui s'en dégagent. C'est l'inquiétude sur l'état de santé de la presse, hein, qui revient très souvent dans vos dessins. Et puis, ce sont effectivement tous les débats qu'il y a en ce moment en Guinée autour de la réforme de la Constitution et le mandat éventuel supplémentaire du président. En ce qui concerne justement la presse, la liberté de la presse, est-ce qu'il y a pour vous des raisons de s'inquiéter? Parce qu'on peut réellement se poser la question quand on voit vos dessins.
Oui, il faut reconnaître que depuis 2012, il faut reconnaître que commence à avoir de l'inquiétude au niveau de la liberté de la presse en Guinée. Bien sûr qu'en Guinée, il n'y a pas de journaliste en prison à proprement parler. D'où cette expression, la liberté d'expression en Guinée, oui, mais la liberté de la presse, c'est non. Parce que nous sommes régis par une loi qui de la presse ici en Guinée qu'on appelle la loi L002 qui dépénalise les délits de presse. Donc, et aujourd'hui, nous sommes inquiets parce qu'il y a beaucoup de nos confrères pour un simple article de témoignage ou bien pour un simple relais d'information est mis aux arrêts et puis conduit en prison. Donc, j'exprime souvent ce genre d'inquiétude dans mes dessins pour montrer que, effectivement, c'est inquiétant. Ensuite, nous sommes bientôt le 1er mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Et pour votre information, je suis coopté dans l'ONG Cartoon for Peace de notre confrère Jean Plantu. Donc, le 1er mai, nous serons à Addis Abeba aujourd'hui. La plupart des dessinateurs de presse des 5 continents se retrouvent là-bas pour parler de la presse, pour parler de cette liberté de la presse qui est menacée un peu partout aujourd'hui.
Ousmane Diarra, la liberté d'expression, vous en êtes aussi l'un des combattants. Vous avez reçu des menaces extrêmement sérieuses, des menaces de mort de la part de certains islamistes, en particulier après la publication de votre roman La Route des Clameurs, qui dénonçait l'intolérance, la destruction islamiste. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez toujours menacé?
Oui, plus que jamais, puisque ça va au-delà de même de ma petite personne, puisque l'État même est menacé. Le système qui me menace, 2016, etc. L'État malien est menacé par le même système. Pas seulement par les djihadistes en armes qui se battent, qui commettent des attentats, qui poussent les communautés les unes contre les autres. Tout ça, c'est dans la roue des clameurs. J'ai démonté tout ça. Mais aussi par les djihadistes en civil, terroriste, il faut le dire, en civil qui, à la moindre des choses, ameute la population pour déstabiliser l'État. Ce n'est même pas un régime qu'on déstabilise désormais, mais c'est l'État malien qui est menacé. Dans ses fondements laïques.
Mais alors, face à ce genre de menaces politiques et sociétales extrêmement graves, est-ce que la littérature peut réellement faire le poids?
Bon, la littérature n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, mais quand même, à un moment donné de l'histoire, Victor Hugo s'est exilé en Angleterre pour écrire Napoléon le Petit. Hein. Donc ça aussi, on peut le faire.
Hein. Mais vous avez toujours refusé de partir en exil, justement. Vous auriez pu
quitter le Mali. Je pense pas pouvoir le faire parce que c'est la terre de mes ancêtres, comme celle de tous les Maliens. Nous avons le devoir, avec quelque moins que ce soit, de défendre ces terres-là, de ne pas laisser ces terres infestées par, c'est le mot, je n'hésite pas à l'utiliser, par des gens qui ne veulent de nous, qui veulent faire de nous des, parce que c'est ce que je sens, des esclaves, des gens incapables de penser, qui nient tout de nous. Tout ce que nos aïeux ont fait avant leur arrivée, même en l'islam, c'est zéro. Nous sommes dans l'obscurantisme. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est pour cela qu'ils commencent par s'attaquer aux fondements de nos cultures. Et montent les communautés les unes contre les autres. Aussi à notre système de pensée, etc., etc. Et c'est ce qui explique en grande partie les troubles même maintenant à Bamako. Pratiquement personne ne sait dans quel sens aller mentalement.
Et parce vous, qu'ils en, ont tant réussi. Qu'écrivain, en tant qu'écrivain, quel rôle pouvez-vous jouer?
Mon rôle, c'est de parler,
de dénoncer.
Parler chaque fois que j'ai l'occasion de parler et de n'avoir pas peur. Je dis, je le répète, je n'ai pas droit à la peur parce que les jeunes militaires et civils qui sautent sur les mines tous les jours, moi, ma vie ne vaut pas mieux que la leur. Ça, même pas ça, à la cheville. Donc, à mon âge, je n'ai pas le droit de dénoncer le mal qui nous ronge. Et si ce mal nous ronge, c'est un devoir. Et je suis prêt à affronter qui que ce soit dans un débat à Bamako pour exprimer mes pensées.
Vous m'en direz des nouvelles est à la 11e édition des 72 heures du livre à Conakry.
Une émission enregistrée au Centre culturel franco-guinéen, toujours avec nos quatre raconteurs d'histoire, le dessinateur Oscar et trois romanciers, le malien Ousmane Diarra, l'auteur guinéen de romans policiers Mamadi Koulibaly et Juliana Diallo qui enseigne aussi au groupe scolaire Phoenix ici à Conakry. Et il se trouve qu'hier, ici même, au CCFG, nous vous avons croisé dans les allées des 72 heures du livre avec quelques-unes de vos jeunes élèves.
Notre école s'appelle Phoenix International.
Et où se trouve l'école?
À Sonsoniaga.
Oui, j'aime lire les livres de la bibliothèque. Je lis Cendrillon. Cendrillon était une petite fille. Il avait perdu sa maman et restait son papa. Son papa a remarié une deuxième femme, mais la deuxième femme était méchante. Il avait deux filles, Anastasie et Javotte. Eux aussi, ils étaient méchantes vers Cendrillon. Cendrillon était malheureuse. Il faisait toutes les corvées de la maison.
Je m'appelle Bakadir Sherif Ba. J'aime lire aussi Kirikou. Kirikou était petit. Il partait à la forêt. Et la Karaba, la sorcière. Karaba fait le bise. Maintenant, Kirikou va être grand dans la forêt. S'il va partir à la maison, sa mère va dessiner pas Kirikou. Ils vont partir à la forêt, ils vont demander à Karaba la sorcière.
Fadima Ba, les livres ils sont intéressants. Blanche-Neige, il était une fois un roi avec sa petite fille. Vivait dans un royaume. Sa femme était morte et il maria une femme très méchante. Cette femme-là, elle voulait tuer Blanche-Neige. Un jour, elle demanda à son miroir magique si elle est belle. Le miroir répondit, Blanche-Neige est plus belle que elle. Et prit le miroir et le détruit.
Je m'appelle Mariam Selouba. J'ai laissé son chapeau magique et il est un drôle de bonhomme, tout grand, tout maigre et moustache. Tout grand, tout maigre et moustache.
Vive les 72 heures de livre.
Quel enthousiasme, Juliana Diallo, pour la lecture. Passage, on a compris que les contes, hein, chers au cœur d'Ousmane Diarra, sont aussi très très présents, hein, effectivement, dans l'imaginaire de ces jeunes enfants.
Oui, tout à fait. Ces enfants qui viennent de parler n'ont que 8 ans. Ce sont des élèves de 3e année. Donc je suis très fière de réécouter leurs paroles. Nous avons une bibliothèque à l'école. Chaque classe passe une fois par semaine et la lecture est une priorité, quelle que soit sa forme.
Mais comment vous, en tant qu'enseignante, vous faites pour partager votre amour des livres? Comment est-ce que vous les amenez à découvrir le bonheur de lire?
Ça commence à la maternelle. Il faut que les enfants grandissent entourés de matière à lire, des albums. En fait, c'est un outil d'enseignement, c'est un outil d'apprentissage. Donc, enseigner le français, c'est en fait faire découvrir des histoires merveilleuses, échanger.
La lecture plaisir qui peut ensuite devenir un élément d'apprentissage, qu'on ne peut pas séparer les deux.
Pas du tout, et avec beaucoup d'images au départ, parce que le français, c'est une langue étrangère. ces enfants qui viennent de parler, c'est comme en France, vous aurez interviewé des élèves en anglais. Donc chapeau, les enfants qui arrivent à s'exprimer dans cette langue étrangère en français, et c'est un défi.
Voilà, c'est un défi, mais effectivement, on était vraiment très très heureux de les rencontrer avec vous hier ici au CCFV. Alors, nos auditeurs ont su percevoir un accent qui n'est pas complètement guinéen, faites-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours, Juliana Diallo?
Oui, vous m'avez présenté comme une Hongroise, donc je viens de la Hongrie, mais j'ai vécu autant en Guinée qu'en Hongrie, donc je suis maintenant autant guinéenne.
Vous êtes là depuis 1991.
Oui, ça fait 28 ans quand même, donc c'est toute une vie ici.
Mais j'imagine que quand vous êtes arrivé ici en Guinée, ça a été un petit peu le choc des cultures pour vous, non?
Oui, absolument, absolument. Et bon, pour écrire mon deuxième roman, Entrer dans la tribu, j'ai beaucoup puisé, bien sûr, dans mon expérience, bien que ce n'est pas mon histoire. C'est un roman où j'ai cherché à construire un scénario, justement pour permettre de parler de ce monde perdu, un village très enclavé qui nous emmène dans la région de Boké. Mais ça pouvait être au Fouta, ça pouvait être un village en forêt, même en Asie ou dans l'Amazonie, parce que c'est cette même vie communautaire avant l'arrivée de la modernité, avec tout ce que cela apporte.
Oui, l'idée c'était aussi parler de la ruralité, qui est un sujet qui n'est pas tant traité que ça finalement par la littérature.
Justement, pour moi, le défi, c'était de montrer d'abord ce regard de l'étranger qui vient de cette société d'abondance, culture de consommation, cette culture moderne qui méprise, qui jette un regard de méfiance sur le village qui est souvent présenté comme sous-développé, où il y a des poches de pauvreté, la misère. Donc c'est un regard tellement partial, tellement schématique, borné, qui dévalorise des valeurs qu'on devait bandir au monde. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre.
En voici un court passage, nous sommes page 61 de votre livre.
Devant les plus grandes cases, autour d'un banc long fait de bambou, étaient disposés toutes sortes d'objets pouvant servir de siège, de l'escabeau au tabouret, afin de permettre au moins aux aînés de s'asseoir, tandis que la multitude des curieux restait debout derrière eux. Au milieu de l'agitation, on trouvait une chaise en bon état, de toute évidence réservée aux visiteurs de marque. Et ils la proposèrent à Lara. Lorsqu'il leur sembla que tous ceux qui comptaient étaient présents, à l'appel d'un homme, petits et grands se turent, et même les nourrissons pleurnicheurs cessèrent leurs gémissements. Retentit alors le marmonnement familier des prières, des suppliques et des psalmodies. Puis, le vieillard, assis au milieu du cercle, se mit à discourir. Il parlait doucement, articulant chaque mot avec soin, et à la fin de chaque phrase, l'auditoire exprimait son accord par des murmures d'approbation et acquiesçait de la tête. À en juger par les gestes et les regards tournés vers elle, Lara n'eut aucun doute sur le fait qu'il se sentait tout à fait honoré par sa visite. « Qui est ce vieux ?» se demanda Lara, incapable de détacher son regard des rayures noires qui ornaient les manches et le col de son boubou blanc. S'en suivirent de nouveau des murmures, et encore la même psalmodie mélodieuse, sans fin, comme tout à l'heure, chacun égrénant ardemment son chapelet. « À quoi sert ce bredouillage ? Combien de fois vont-ils répéter la même chose ?» Elle s'impatientait, et son regard rechercha Dalanda qui baguenaudait au fond, mêlée aux filles dressées sur la pointe des pieds. Elle était agacée du fait que Dalanda n'obéissait pas, alors qu'elle lui faisait signe de venir s'asseoir à côté d'elle. Un autre vieux parla, qui zézaillait à cause de ses dents mal rangées, et plus bas, plus diffus, il reprit très certainement ce que son prédécesseur avait déjà dit. L'assistance n'avait pas l'air de s'ennuyer, car elle suivait chaque phrase avec des murmures acharnés. Ensuite, lui succéda un autre homme, âgé, courtois, qui avalait les mots de telle manière qu'on ne pouvait savoir s'il parlait ou s'il priait. Lorsqu'un autre encore se mit à discourir, Lara eut l'impression qu'il conspirait contre elle dans l'intention évidente de mettre sa patience à l'épreuve. Qu'est-ce qu'ils perdent comme temps? Ils gaspillent une demi-journée pour une chose qu'on peut régler en deux mots. Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. Ils passent leur temps à bavarder. Si l'on devait écouter tout le monde, on serait assis ici jusqu'au soir.
Juliana Diallo, l'idée c'était pour vous de témoigner d'une réalité à travers le roman?
Témoigner, mais aussi mettre en valeur ces coutumes, en fait, ces valeurs traditionnelles positives que ailleurs on est en train de perdre dans la modernité. Au village, c'est vrai, il n'y a pas de bien matériel parce que justement ce n'est pas une priorité. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce monde et considèrent ce monde rural avec mépris, pour eux c'est une preuve du fait qu'il n'y a pas assez d'ambition, que les gens manquent d'organisation, manquent de volonté de faire plus, faire mieux, accumuler. Or, c'est simplement, ce n'est pas du tout une priorité pour eux. C'est une autre façon de vivre et de penser où on donne la priorité à vivre ensemble, partager, être ensemble, faire ensemble avec beaucoup plus de sérénité. Et puis, on se contente de ce qu'on a. On ne cherche pas à avoir plus à tout prix. Et justement, dans le monde moderne qui nous pousse à toujours avoir plus de désir, avoir plus, c'est quelque chose auquel il faut résister. Il faut décrier, à mon avis, qu'il n'y a pas une seule voie de développement qu'on nous montre. Il y a un discours que le développement, c'est cette croissance matérielle, la technologie, l'abondance, le bien-être. Or, il y a plusieurs voies. Il faut qu'on ait cette diversité et il ne faut pas qu'on sacrifie le social, les liens qui nous unissent, juste pour avoir plus de biens matériels.
Ntambara bon fatongo ntambara sankiriso ntasiga ntasiga ntambara bon fatongo ntambara sankiriso abimuna alo pari dollar na États-Unis mvanga katanga sangbe feng bimuna alo pari dollar na États-Unis. Vanga katanga sangbe fin, nous fambange timane umbe, mfawa sara mane mbabe, fonfa umma tore nyamane, wada wawura mameti, nous fambange timane umbe, mfawa sara mane mbabe, fonfa umma tore nyamane, wada wawura mameti, nakombaba. Traverse pas les vallées, ne t'en va pas les vallées, ne traverse pas les vallées.
La traversée fut rude, le désert est aride, les dunes de sable, la perte de biche, perdu Malik. J'ai cru avoir un bon deal, le passeur m'a dit que c'est tout facile, tout près le paradis. Le désert, son visage et sa misère. La mort dans la peau, les charognards, les vipères. J'ai eu si soif que j'ai vu ma pisse. Loin de ma famille, je vis l'enfer, j'agonise. Je m'évanouis, tu réveilles dans un gang d'esclavagistes. Attaché, séquestré, emprisonné, torturé, balafré, ma terre au fouet. Cruelle réalité, mourir mon seul souhait. Le prix de mon exode s'avère trop élevé. Le cauchemar se poursuit, la mort rôde. La mer a bouffé Samba et sa troupe. La Méditerranée nous a pris tant de vie. Partir c'est bien, mais pas sans Kaidi. Miahi miyi, mi tambi mi arti. Comme yi konton no anini. La wangon la wulbini, mainde den no suti. Mi sepi mi ronki, njare din no wuli. Miahi miyi, mi tambi mi arti.
Avec GeForce Tree, Fallait dans VMDN sur RFI, spécial 72 heures du livre de Conakry avec nos invités Juliana Diallo, Oscar Mamadi Koulibaly et Ousmane Diarra réunis au Centre culturel franco-guinéen, une chanson qui parle des migrants qui meurent en Méditerranée. Vous avez raconté en bande dessinée, Oscar, l'histoire de Souleymane, un jeune Guinéen de Siguiri qui voyage clandestinement vers l'Europe. Le récit s'appelait « Du rêve au cauchemar ». Alors là, on n'est plus dans la caricature du tout, là, on est dans le récit réaliste.
C'est avec ma deuxième casquette d'auteur de bande dessinée, parce que ici en Guinée, la bande dessinée elle est un peu jeune encore. Nous sommes les, c'est nous qui remettons cette aventure encore en ligne, parce que nos devanciers à un moment ont arrêté et puis voilà. Et la bande dessinée guinéenne, elle est très jeune et elle n'est pas mûre. C'est pourquoi on a créé ce festival national de caricature de bande dessinée qu'on appelle Bulle d'encre, où pendant chaque édition, nous organisons un concours national de dessin pour détecter les nouveaux talents, les suivre et les former. Ensuite, nous faisons des ateliers avec les professionnels qui viennent d'un peu partout, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Donc, voilà comment c'est parti.
Voilà le contexte. Mais voilà, alors parlez-nous du personnage de Souleymane. Alors, comment vous l'avez trouvé, personnage?
Ce projet a été initié par l'ambassade d'Allemagne, qui voulait vraiment avoir quelque chose d'utilisable par tout le monde, du 7 à 77 ans, donc une bande dessinée, pour parler un peu de cette problématique de l'immigration clandestine. Et voilà comment on a réussi à inventer, parce que d'abord c'était une fiction, parce que nous serons bientôt à la troisième édition de cette bande dessinée. Et j'ai créé une fiction, parce que là, c'était un jeune qui partait, qui a fini l'université, qui n'avait pas de quoi, savait pas quoi faire. Il voulait vraiment rendre la monnaie à ses parents pour avoir éduqué, pour l'avoir donné une bonne éducation, mais il savait pas, il n'y a pas de travail, pas d'emploi, pas de perspective d'avenir. Alors la solution, c'est quoi? C'est la route de l'aventure.
Voilà, d'où l'histoire donc de ce Souleymane. Et il se trouve, Mamadi Koulibaly, que vous auriez pu de raconter aussi l'histoire d'un migrant de Guinée de l'Europe nommé Souleymane, parce qu'il s'appelle aussi Souleymane, le héros de votre roman. Alors, et en plus, c'est un personnage qui aurait voulu rejoindre l'Eldorado européen, tel qu'on se l'imagine, souvent à mauvais escient d'ailleurs, sauf que finalement, votre Souleymane à vous, il n'est pas parti.
Non, il n'est pas parti.
Pourquoi ?
Il a essayé plusieurs fois d'y être. Il a essayé plusieurs fois d'y être. Malheureusement, il n'a pas pu. Et puis, finalement, il a essayé de rallier l'Eldorado par les voies légales. Malheureusement, il n'avait pas de moyens. Et puis, il a voulu donc qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un qui pouvait financer ce voyage-là. Et ça l'a conduit à une visite chez un mystique qui, malheureusement, lui a fait une proposition indécente.
Voilà, il s'appelle Corosina. Il est géomancien. C'est quoi un géomancien?
C'est un géomancien. Disons, quelqu'un qui fait de la divination à partir de la terre. Hein. Donc, c'est une définition très simple. Et donc, on va lui faire la proposition qui consiste cette fois-ci à verser du sang humain.
Et trois fois.
Trois fois et en l'espace de 10 ans. Et bien entendu, il y a deux interdits, c'est le lait et le sexe. Avant d'aller chez le géomancien, il avait un projet, il avait une fiancée à qui il avait tenu cette promesse, c'était de l'épouser dans les 2 ou 3 ans. Et on lui a dit pas de sexe, pas de lait pendant 10 ans. Et il va tuer une première personne, il va devenir très riche et puis il va trouver un moyen d'éloigner sa fiancée, de l'amener au Canada.
Alors attendez, racontez pas tout. Quand même, Mamadi Koulibaly, parce qu'il y a du suspense dans le livre, c'est un roman policier, on l'oublie pas. Hein. Donc on va se remettre un petit peu dans le contexte. Donc Souleymane sort de chez ce géomancien, donc il a conclu une sorte de pacte. Et c'est dans ce contexte qu'il se retrouve comme ça au milieu de la nuit sur une route du centre de la Guinée. Nous sommes page 32 de votre livre.
Quelques mois plus tard, en quittant Dalaba pour Mamou vers 3h du matin, il vit une jeune femme arrêtée seule près d'une Peugeot avec une clé de roue et un cric en main. Il s'approcha d'elle. Que puis-je pour vous, madame ? Juste m'aider à remplacer le pneu crevé, répondit-elle. Donnez-moi la clé de la roue et le cric et ouvrez le coffre. Elle les lui tendit, puis se dirigea vers le coffre sans se douter un seul instant de ce qui se préparait derrière elle. Tandis qu'elle marchait, l'homme la guettait. Aussitôt qu'elle se pencha pour ouvrir le coffre, elle reçut dans la nuque deux violents coups. Le premier, asséné par le cric, et le second, par la clé de roue. Elle perdit connaissance et tomba par terre. Il lui bâillonna la bouche à l'aide d'un torchon ramassé par terre, lui donna des coups jusqu'à ce que mort s'en suive. Il sortit de sa poche le mouchoir que lui avait remis Corrosina, en trempa un bout dans le sang coulant du nez de la victime, puis après un moment d'hésitation, il souleva le corps et le jeta dans le coffre. Presque tout humide de sueur, il reprit la route de Mamou, appuya sur l'accélérateur et continua jusqu'à Conakry. Arrivé dans la cour aux alentours de 14h, il courut s'enfermer dans la chambre et se mit à verser des larmes, abondamment. Il n'avait pas mangé depuis la veille et n'avait pas non plus faim. À mesure qu'il réfléchissait au meurtre commis sur la route de Dalaba, les battements de son cœur s'accéléraient.
Un extrait du Tueur en série de La Cité perdue que vous avez publié chez l'Armatan Guinée, Mamadi Coulibaly. Le roman policier, c'est tout un imaginaire fait de personnages, souvent en couleur, fait d'atmosphère aussi, hein, c'est vraiment très important. Le suspense aussi, comment vous êtes-vous nourri pour créer votre propre univers à vous, puisque vous disiez vous-même au début de cette émission, l'idée, c'était de trouver mon propre style à moi.
Disons, les romans policiers, hein, on peut les classer en deux catégories. Il y en a qui peignent le réel, et donc, en se situant dans le contexte africain, il y a des romans policiers qui rendent compte du réel social et politique de l'Afrique tel que ça se présente aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui font une représentation de cette Afrique dont ils rêvent. Et moi, dans mes écrits, je fais en sorte qu'il y ait les deux. J'essaie donc de peindre ce réel social et politique et les éléments qui font que ce réel ne marche pas, et je fais en sorte de les traquer et pour que j'aie cette Afrique dont je rêve. C'est comme cela.
Donc le roman policier, qui a priori est un genre plutôt réaliste, vous essayez de lui donner aussi une dimension onirique.
Exactement, c'est cela.
Mais pourquoi vous avez choisi justement le genre policier ? Vous auriez pu écrire des romans justement beaucoup plus poétiques, beaucoup plus oniriques, beaucoup plus dans l'imaginaire, alors que là on est quand même dans un univers extrêmement réaliste.
Il y a cette description du réel social et politique. Ce suspense qui nous tient jusqu'au bout, et puis cette description crue, et on aborde le social sous un autre angle, sous un autre prisme peut-être, que les autres genres n'empruntent pas pour essayer de parler. Je me trouve beaucoup plus à l'aise en passant par ce modèle qu'en passant par les autres.
Eh bien, on va parler littérature et poésie dans l'émission de demain, la troisième émission que nous enregistrerons à la même heure ici au Centre culturel franco-guinéen, avec nous demain des photographes, hein, le Sénégalais Boubacar Touré Mandemori, le Français Bernard Desjeux et le Béninois Ishola Akpo, et également avec nous l'écrivain, réalisateur et producteur belge Jean-Marc Turine. Merci beaucoup à nos quatre invités du jour, que vous pouvez évidemment applaudir. Juliana Diallo, Ousmane Diarra, Oscar et Mamadi Coulibaly. Merci au Centre culturel franco-guinéen. Merci au public qui était là toujours aussi nombreux. On se retrouve demain dans un instant l'info sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.
Les 72 heures du livre de Conakry sur RFI.